65. Magnus, resté seul auprès du cadavre, ne s'était pas aperçu de la désertion des bergers. Il était toujours à genoux, mais il ne priait pas. Il ne pensait pas. Sa force était brisée. Il ne sentait son existence que par la souffrance aiguë de son front qu'il avait ébranlé et presque fracassé sur le pavé de la cellule du prieur. Cette commotion physique, jointe aux émotions affreuses de son âme, avait achevé de le plonger dans un affaissement qui ressemblait à l'imbécilité. Peu à peu, les douleurs qu'il ressentait au crâne devinrent si violentes qu'il y porta la main. Un sang livide collait ses cheveux. Il regarda sa main rouge sans comprendre qu'elle était ensanglantée. Seulement, cette sensation de chaleur humide et cette odeur de sang produisirent une sorte de contraction dans les muscles de ses doigts et dilatèrent ses narines comme eût fait l'ivresse du vin ou des sens. L'âme était engourdie, morte peut-être. L'animal chagrin, féroce et avide, qui se cache sous le cilice du moine, se réveillait avec son instinct carnassier et son fauve appétit de plaisir. Il ouvrit des yeux vitreux comme ceux d'un cadavre et bondit comme si le galvanisme l'eût frappé. Mais en voyant devant lui cette figure pâle de sténio qui dormait du sommeil des anges, il s'arrêta, sourit affreusement à son blanc linceul et à sa couronne de fleurs et murmura d'une voix émue « Ô femme, ô beauté !» Puis il prit la main du cadavre et le froid de la mort apaisa son délire et chassa les trompeuses illusions de la fièvre. Il reconnut que ce n'était pas là une femme endormie, mais un homme couché sur le cercueil, un homme dont il se reprochait la perte. Il regarda autour de lui et, ne voyant rien que les flancs noirs du rocher où vacillait la flamme des torches, n'entendant rien que le vent qui mugissait dans les mélèzes, il sentit tout l'effroi de la solitude, toutes les terreurs de la nuit tomber sur son crâne comme une montagne de glace. Il crut voir quelque chose se mouvoir et ramper sur le rocher auprès de lui. Il ferma les yeux pour ne plus le voir. Il les rouvrit et regarda involontairement. Il vit une figure effrayante qui se tenait immobile et noire à son côté. Il la regarda pendant près d'une heure, sans oser faire un mouvement, retenant son haleine de peur d'éveiller l'attention de ce fantôme, prêt à se lever et à marcher vers lui. Le flambeau de résine, qui jetait le profil de Magnus au mur de la grotte, s'éteignit, et le fantôme disparut, sans que le moine eût compris que c'était son ombre. Des pas légers effleurèrent les buissons de la colline. C'était peut-être un chamois qui s'approchait curieusement des flambeaux. Magnus se signa et jeta un regard tremblant sur le sentier qui menait à la vallée. Il crut voir une femme blanche, une femme errante et seule dans la nuit. Le désir inquiet fit bondir son cœur avec violence. Il se leva, prêt à courir vers elle. La peur imbécile le retint. C'était un spectre qui venait appeler Sténio, une ombre sortie du sépulcre pour hurler dans les ténèbres. Il enfonça son visage dans ses mains, s'enveloppa la tête dans son capuchon et se roula dans un coin, décidé à ne rien voir, à ne rien entendre. Aucun bruit n'arrivant plus à son oreille, il se rassura un peu et leva la tête. Il vit Lélia, agenouillée près de Sténio. Le moine voulut crier, sa langue s'attacha à son palais. Il voulut fuir, ses jambes devinrent plus froides et plus immobiles que le granit du rocher. Il resta l'œil hagard, la main ouverte, le visage ombragé de son capuchon. Lélia était penchée sur le lit funèbre. Ses longs cheveux déroulés par l'humidité tombaient le long de ses joues pâles. Elle semblait, aussi morte que Sténio. C'était la digne fiancée d'un cadavre. Elle avait écouté les discours des bergers. Elle s'était dérobée à leurs soins, à leurs consolations. Elle avait voulu embrasser la poussière de Sténio. Guidée par le phare sinistre allumé devant la grotte, elle était venue seule, sans effroi, sans remords, sans douleur peut-être. Cependant, à l'aspect de ce beau front couvert des ombres de la mort, elle sentit son âme s'amollir. La tendre pitié adoucit la rudesse de cette âme sombre et calme dans le désespoir. « Oui, Sténio, dit-elle, sans s'inquiéter ou sans s'apercevoir de la présence du moine, je te plains parce que tu m'as maudite. Je te plains parce que tu n'as pas compris que Dieu, en nous créant, n'avait pas résolu l'union de nos destinées. Tu as cru, je le sais, que je prenais plaisir à multiplier tes tortures. Tu as cru que je voulais venger sur toi les douleurs et les déceptions de mes premières années. Tu as cru que j'accueillais tes serments par le dédain et l'indifférence pour indemniser ma vanité de toutes les trahisons que les hommes m'avaient infligées. Tu te trompais, Sténio, et je te pardonne l'anathème que tu as prononcé contre moi. Celui qui juge nos pensées avant même que nous puissions les prévoir, celui qui feuillette à toute heure le livre de nos consciences et qui lit sans ambiguïté les desseins mystérieux qui n'y sont pas encore inscrits, celui-là, Sténio, n'a pas accueilli tes menaces et ne les réalisera pas. Il ne te punira pas parce que tu as été aveugle. Il ne châtiera pas ta faiblesse parce que tu as refusé de te confier dans une sagesse qui n'était pas la tienne. Tu as payé trop cher la lumière qui est venue éclairer tes derniers jours pour qu'il te reproche d'avoir longtemps erré dans les ténèbres. Le savoir douloureux et terrible que tu emportes avec toi n'a pas besoin d'expiation, car ta lèvre s'est desséchée en goûtant le fruit que tu avais cueilli. Mais Dieu, j'en ai la ferme confiance, Dieu nous réunira dans l'éternité. Assis ensemble à ses pieds, nous assisterons à ses conseils et nous saurons alors pourquoi il nous a séparés sur la terre. En lisant sur son front radieux le secret de ses volontés impénétrables aux yeux mortels, ta colère et ton étonnement seront comme s'ils n'avaient jamais été. Alors, Sténio, tu n'essaieras plus de me haïr. Tu n'accuseras plus mon injustice et ma cruauté. Quand Dieu, faisant à chacun de nous la part qu'il mérite, distribuera nos travaux selon nos forces, tu comprendras, ô mon bien-aimé, que nous ne pouvions pas ici suivre la même route ni marcher au même but. Les douleurs qu'il nous a envoyées n'ont pas été pareilles. Le maître sévère que nous avons servi tous deux nous expliquera le mystère de nos souffrances. En ouvrant devant nous l'éclatante perspective d'une éternelle effusion, il nous dira pourquoi il lui a plu de préparer la réunion de nos deux âmes par les voies obscures que notre œil ne soupçonnait pas. Il te montrera, Sténio, dans sa nudité saignante, mon cœur à qui tu imputais le dédain et la dureté. La terreur que tu as ressentie en écoutant mes paroles, l'humiliation qui obscurcissait ton regard quand je t'avouais que je ne pouvais t'aimer, la confusion tremblante de tes pensées se changera en une compassion sérieuse. Les liens que tu croyais si forts au-dessus de toi, que tu désespérais d'atteindre, les liens s'abaissera devant toi. Tu oublieras, comme elle, l'admiration et le respect dont les hommes environnaient mes pas. Tu sauras pourquoi j'allais seul et sans jamais demander secours. Confondu sous l'œil de Dieu dans une félicité permanente, chacun de nous accomplira courageusement la tâche qu'il aura reçue. Nos regards, en se rencontrant, doubleront notre confiance et nos forces. le souvenir de nos misères passées s'évanouira comme un songe, et il nous arrivera de nous demander si vraiment nous avons vécu. » Elle se pencha sur Sténio, détacha de sa couronne une fleur flétrie qu'elle mit sur son cœur, et reprit le sentier de la vallée, sans avoir fait attention aux moines qui, debout dans l'ombre, adossés au mur de la grotte, dardaient sur elle ses yeux étincelants. La raison de Magnus l'avait abandonnée. Il ne comprenait rien au discours de Lélia. Il la voyait seulement et il la trouvait belle. Sa passion se réveilla avec violence. Il ne se souvenait plus que des désirs qu'il avait si longtemps comprimés et qui le dévoraient plus que jamais. Quand il la vit parler à Sténio, une affreuse jalousie, qu'il n'avait jamais connue parce qu'il n'avait pas eu l'occasion de la ressentir, éclata en lui. Il aurait frappé Sténio s'il eût osé. Mais ce cadavre lui faisait peur, et le désir s'allumait en lui encore plus intense que la vengeance. Il s'élança sur les traces de Lélia, et comme elle tournait le sentier, il la saisit par le bras. Lélia se retourna sans crier, sans tressaillir, et regarda cette figure hâve, cet œil sanglant, cette bouche tremblante, sans peur et presque sans surprise. « Femme, lui dit le moine, tu m'as assez fait souffrir. Console-moi, aime-moi. » Lélia, ne reconnaissant pas dans ce moine chauve et voûté le prêtre qu'elle avait vu jeune et fier peu d'années auparavant, s'arrêta étonnée. « Mon père, lui dit-elle, adressez-vous à Dieu. Son amour est le seul qui puisse se consoler. » « Ne te souvient-il plus, Lélia, répondit le moine sans l'écouter, que c'est moi qui t'ai sauvé la vie. Sans moi, tu périssais dans les ruines du monastère où tu passas 2 ans. Tu t'en souviens, femme? Je me jetai au milieu des décombres, près de m'écraser. Je t'emportai, je te mis sur mon cheval, et je voyageais tout le jour en te tenant dans mes bras, et je n'osais pas seulement baiser ton vêtement. Mais dès ce jour, un feu dévorant s'alluma dans ma poitrine. En vain, j'ai jeûné et prié. Dieu ne veut pas me guérir. Il faut que tu sois à moi. Quand je serai apaisé, je serai guéri. Je ferai pénitence et je serai sauvé. Autrement, je redeviendrai fou et je serai damné. Je te reconnais bien, Magnus, répondit-elle. Hélas, voici donc le fruit de tes expiations et de tes combats. « Ne me raille pas, femme, répondit-il avec un regard sombre, car je suis aussi près de la haine que de l'amour, et si tu me repousses, je ne sais pas ce que la colère peut me conseiller. »« Laisse mon bras, Magnus, dit Lélia avec le calme du dédain. Assieds-toi sur cette roche et je vais te parler. » Il y avait tant d'autorité dans sa voix que le moine, habitué à la soumission passive, obéit comme par instinct et s'assit à 2 pas d'elle. Son cœur battait si fort qu'il ne pouvait parler. Il prit dans ses 2 mains sa tête saignante et douloureuse et rassembla tout ce qui lui restait de force et de mémoire pour écouter et comprendre. « Magnus, lui dit Lélia, si lorsque vous étiez jeune encore et capable de réaliser une existence sociale, vous m'eussiez consulté sur votre avenir, je ne vous aurais pas conseillé d'être prêtre. Votre organisation devait vous rendre impossible ces devoirs rigides que vous n'accomplissez que de fait. Vous avez été un mauvais prêtre, mais Dieu vous pardonnera parce que vous avez beaucoup souffert. Maintenant, il est trop tard pour que vous rentriez dans la vie ordinaire. Vous avez perdu la force d'atteindre à aucune vertu. Il faut vous en tenir à l'abstinence. Bien que j'aie peu de foi à l'efficacité de vos mortifications et aux pratiques de votre vie monastique, je pense que vous devez attendre dans la retraite la fin de vos souffrances. Elle ne saurait tarder. Regardez vos mains, regardez vos cheveux gris. Tant mieux pour toi, Magnus, que ne suis-je aussi près de la tombe ? Va, malheureux, nous ne pouvons rien les uns pour les autres. Tu t'es trompé, tu t'es retranché de la vie et tu t'es senti le besoin de vivre. Et maintenant tu t'en effraies et tu crois qu'il te serait possible de calmer tes désirs par la jouissance. Insensé puéril, il n'est plus temps d'y songer. Tu aurais pu trouver le bonheur dans la liberté il y a quelques années. Ta raison aurait pu s'éclairer, ton âme s'endurcir contre de vains remords. Mais aujourd'hui, l'horreur, le dégoût et l'effroi te poursuivraient partout. Tu ne pourrais pas connaître l'amour, tu le prendrais toujours pour le crime et l'habitude de flétrir du nom de péché les joies légitimes te rendraient criminel et vicieux aux yeux de ta conscience, dans les bras de la femme la plus pure. Résigne-toi, pauvre moine, abaisse ton orgueil. Tu t'es cru assez grand pour cette terrible vertu du célibat, tu t'es trompé, te dis-je. Mais qu'importe, tu arrives au terme de tes maux. Applique-toi à ne pas en perdre le fruit. Tu n'as pas été assez grand pour que Dieu te pardonne le désespoir. Soumets-toi. » Magnus avait écouté vainement. Son cerveau se refusait à tout emploi de faculté. Il souffrait, il croyait comprendre que Lélia le raillait. La figure tranquille et fière de cette femme l'humiliait profondément. Il la détestait par instants et voulait la fuir. Mais il se croyait saisi et fasciné par l'œil du démon. Lélia ne faisait plus attention à lui. Elle rêvait et semblait projeter quelque chose. « Écoute, lui dit-elle après un instant de silence et d'incertitude, tu vas m'obéir, et au lieu de te livrer à des pensées indignes de ta vocation, tu vas m'aider à rendre à ce cadavre les derniers honneurs. Il a été assez errant, assez tourmenté, assez vagabond dans cette vie. Il faut que sa dépouille repose en paix et qu'elle ne soit pas foulée par le pied des passants. Je sais une place où elle dormira ignorée, privée des cérémonies de l'Église, puisque telle est la volonté de Monseigneur, mais non privée du respect que l'on doit aux sépultures et des prières collectives qu'on récite dans l'enceinte des cimetières. Prends ce cadavre sur tes épaules et suis-moi. » Magnus hésita. « Voulez-vous que je porte ce mort ? » dit-il avec effroi. « Monseigneur lui refuse la sépulture bénie et vous parlez de le déposer dans un cimetière ?»« Fais ce que je te dis, » reprit Lélia. « Je sais mieux que toi la pensée de Monseigneur. » Forcé d'obéir au règlement de l'Église et ne voulant point, en cette circonstance, encourager par une infraction l'indulgence qu'on pourrait accorder au suicide, il a dû te commander des choses qu'il m'autorisera à enfreindre. Obéis, Magnus, je te l'ordonne. » Lélia savait bien que sa volonté fascinait Magnus. Il obéit machinalement et sans savoir ce qu'il faisait. Il porta le corps de Sténio jusqu'au cimetière des Camaldules. Dans un angle obscur de ce jardin, on avait déraciné le matin même un if brisé par la foudre. Cette fosse, ouverte par le hasard, n'était pas encore comblée. L'ermite, aidé de l'abbesse des Camaldules, y déposa le cadavre et le recouvrit de terre et de gazon. Puis il reprit, tremblant et consterné, le chemin de son ermitage, tandis que Lélia, agenouillée sur la tombe du poète, implorait pour lui cette mansuétude et cette sagesse infinie qui n'inflige pas de châtiment sans retour et qui remette dans le creuset de l'éternité le métal brisé par les épreuves de cette vie.